va continuer. Je rappelle rapidement pour ceux qui, celles qui n'étaient pas là la dernière fois, pour que je vois un peu où l'on en est dans l'Apocalypse. Donc on a vu la partie des sceaux. Les six premiers sceaux, on l'a vu. Et je crois qu'on peut dire que les sceaux, c'est les déterminations et les volontés de Dieu. Tout le symbolisme des sceaux. C'est tout le grand mystère de la prédestination. Pris, révélé d'une manière très, très concrète à travers les sept sceaux. Autrement dit, ça nous montre la volonté de Dieu sur nous, la volonté du Père sur nous, à travers le cœur blessé de l'agneau. Puisque c'est à travers le cœur blessé de l'agneau que nous sommes prédestinés. Et c'est pour ça que seul l'agneau pouvait enlever les sceaux et que personne d'autre ne pouvait enlever les sceaux. Pour bien nous faire comprendre que, justement, la place tout à fait particulière dans le gouvernement divin du mystère de l'agneau. Et ces sept sceaux nous font comprendre la manière dont Dieu à la fois nous sauve gratuitement par le mystère de Jésus, la grâce qu'il nous donne. Alors la grâce chrétienne nous lie au cheval blanc. Le cheval blanc, c'est selon l'Apocalypse au chapitre 19, le Christ dans sa victoire. Le Christ crucifié, victorieux, et qui continue sa victoire à travers l'Église. Et continue sa victoire à travers chacun d'entre nous, dans ce fait que notre grâce nous lie à la victoire du Christ. Et c'est pour ça que le premier sceau, c'est le cheval blanc. Alors, les autres sceaux, au contraire, nous montrent comment nous coopérons dans une lutte incessante. Nous étions arrivés, je crois, là vous allez me la rappeler, hein, chapitre 8. 8, hein. Le livre avalé. Ah, oui. Bon, très bien. Oui, très bien. Le livre avalé. Le livre avalé, ce qui est très important. Les deux témoins. Oui, on va peut-être reprendre les deux témoins avec. Hein, c'est ça. Ah, on a parlé, on est juste avant. Chapitre 10. Bon, alors, donc, les sceaux représentent les déterminations, tandis que les trompettes représentent l'exécution. Ça, je crois que c'est assez net au point de vue théologique, on peut le dire de façon assez nette. Parce que, il y a le petit signe, hein, c'est que lorsqu'il s'agit des sceaux, il ne peut pas y avoir d'intermédiaire. Quand il s'agit des trompettes, il peut y avoir au contraire des intermédiaires. Ce qui montre bien qu'on est dans un ordre d'exécution. Dans l'ordre de l'exécution, Dieu peut se servir d'intermédiaire. Il se sert de chacun d'entre nous. Dans l'ordre de l'exécution. Plus ou moins fortement, mais il se sert de chacun d'entre nous. Faisons partie de l'exécution. Tandis que dans l'ordre des décisions, alors là, ça, c'est, j'allais dire, vous savez, l'aspect vertical des sceaux, l'aspect horizontal des trompettes, si j'ose dire, hein. Dans les trompettes, on est dans l'ordre de l'exécution, et donc il y a tout le cheminement des causes secondes, des causes premières. Ce qui fait que c'est très difficile de discerner dans les trompettes ce qui provient de Dieu et ce qui provient du démon. Je sais bien qu'au début, c'était une des choses qui m'inquiétait beaucoup, parce que je me dis, mais quand même, on ne peut pas dire que ça vient de Dieu, tout ce qui dégringole des trompettes. Bon, c'est vraiment affolant. Or, ça vient de Dieu aussi. Mais ça vient de Dieu, Dieu se sert du démon. Dans le gouvernement divin, Dieu se sert du démon. Et donc, il y a de fait une action du démon qui se fait d'une façon très très nette. Et cette action du démon qui se fait d'une manière très nette, c'est quelquefois difficile à discerner l'action de Dieu et l'action du démon comme tel. Puisque dans l'exécution, c'est pour ça que c'est très difficile de savoir... Hein. Quand vous sortez d'ici, vous recevez, je ne sais pas quoi, un accident arrive. Alors vous allez dire, est-ce que l'accident, ça provient du démon? Certains disent, ah, c'est nécessairement le démon. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être d'abord votre imprudence. Vous avez manqué de prudence. Dieu a permis ça. C'est pas nécessairement l'action du démon. Le démon peut intervenir en chaîne. Il intervient en chaîne quelquefois.
Mais le démon de toute façon est toujours une cause seconde déjà.
Toujours une cause seconde. Mais façon, voyez, le démon est une cause
Dieu
seconde.
Dieu a permis le démon.
Dieu a permis le démon et Dieu permet au démon d'agir sur nous. Oui. Mais dans l'ordre de l'exécution, vous ne pouvez pas déterminer en disant nécessairement cette action-là provient du démon. C'est très difficile.
Oui, ça,
vous voyez,
oui.
Et c'est pour ça que je dis dans l'ordre de l'exécution, les causalités secondes sont liées. Elles sont liées à un ordre qui nous dépasse. Et nous ne pouvons pas faire le discernement entre les deux. Vous voyez, la cinquième trompette, le cinquième sceau disait « Quand, Seigneur, tu vas arrêter ?» Ce n'est pas toujours la grande tentation, c'est de séparer des bons des méchants. Nous avons tous cette tentation de diviser le monde en intelligent et bête. Ça peut encore se faire, parce que ça, on peut discerner, c'est intelligent. On peut dire « Il y a des gens bêtes, il y a des gens intelligents. Il y a des gens qui ont un sens de l'art, il y a des gens qui ne l'ont pas. » Donc, on peut faire ça du côté de l'intelligence, mais on ne peut jamais le faire du côté de la volonté. On ne peut jamais savoir si quelqu'un agit vraiment en démoniaque, comme un suppôt du démon. Ou si, au contraire, il a une bonne volonté. C'est très, très difficile. Si vous voulez. Il peut peu, mais il peut. Et il peut mal, mais il a peut-être bonne volonté. Je ne peux pas. On aurait la tendance de vouloir enlever le mauvais grain avec le bon grain. La fameuse parabole, hein. Le démon vient mettre le mauvais grain dans le bon grain. Et alors on voudrait, nous, faire tout de suite le partage. Et dire, mais je vais arracher le mauvais grain pour qu'il n'y ait que le bon grain. Oui, ça a été la tentation de Luther. C'est une tentation permanente, ça, dans l'Église. Et une tentation permanente de chacun d'entre nous. Alors, je crois qu'il faut comprendre que nous pouvons discerner les diversités de manière d'être intelligent. Je dirais que c'est toujours très difficile de dire que quelqu'un est intelligent parce qu'il a des modalités d'intelligence différentes. C'était toujours ce que disait le bon père Mandonné, ça je l'ai retenu parce que ces choses-là, ça se retient toute sa vie. Le bon père Mandonné, quand il avait terminé son professorat à Fribourg, était venu au seul choir et nous faisait ce que nous appelions la goutte de lait. Donc c'était pour les commençants. Alors il commençait à lire et puis au bout de 3 minutes, il nous racontait des histoires. Et c'est ce qui était évidemment ce qu'il y avait de plus intéressant. Et alors un beau jour, il nous a dit, mes petits frères, dites-vous bien que vous êtes tous intelligents. Alors ça, j'ai retenu. Dites-vous bien que vous êtes tous intelligents. Mais vous allez voir, vous allez avoir des professeurs qui auront des formes d'intelligence différentes de vous. Alors si vous avez un professeur qui a la même forme d'intelligence que vous, il dira, j'ai un génie dans ma classe. Si au contraire, vous avez un professeur qui a une forme d'intelligence tout à fait différente que vous, il dira, j'ai un imbécile dans ma classe. Oui, alors c'est merveilleux de se dire ça. Parce qu'on peut toujours dire qu'on n'a pas encore trouvé celui qui a la même intelligence de nous pour dire qu'on est un génie. Il faut le chercher, il faut l'attendre celui-là. Mais c'est très très vrai qu'il y a des formes d'intelligence différentes, parce que l'intelligence est ou artistique, ou affective, ou prudentielle, ou spéculative, ou mathématique. Il y a des formes d'intelligence très très diverses. C'est ce qu'on dit quand on dit que l'intelligence est analogique. Parce que l'intelligence n'est pas d'une seule raille. Et c'est peut-être la plus grande bêtise de dire que l'intelligence est d'une seule raille. Quand on dit, ah oui, il n'y a que cette manière-là d'être intelligent. Mais non, il y a 36 manières d'être intelligent. Et chaque intelligence saisit quelque chose. Vous voyez, saisit quelque chose. Alors, dans l'ordre de l'intelligence, on peut encore jauger, on peut encore juger. Mais dans l'ordre des intentions, impossible. Or, dans l'ordre de l'exécution, c'est justement les volontés qui se mêlent. Et je ne peux pas préciser.
Mais on peut quand même, je pense, on voit dans la vie des saints,
le discernement des esprits.
Oui.
Dans certains cas. Dans certains cas, il y a des marques suffisamment nettes. Mais même là, il faut faire attention. Vous voyez, il faut faire attention même là. Parce qu'au fond, l'Église, dans sa sagesse, fait qu'il y a des exorcistes désignés par les évêques. Vous voyez ? Et tout prêtre n'est pas exorciste. Donc ce qui prouve que l'Église reconnaît elle-même que le discernement, pour savoir s'il y a une action démoniaque ou pas une action démoniaque, est très difficile. Et que je crois que ceux qu'elle désigne, il y en a quelques-uns de désignés. Le père de Tonguédec avait été très longtemps désigné à Paris comme chose, et je sais que lui-même disait à la fin de sa vie combien c'était difficile, et quand il était au début, il avait fait des discernements un peu trop rapides, parce que c'est tellement difficile de savoir est-ce que ça vient vraiment du démon ou est-ce que ça vient, voyez, d'une intelligence tout à fait différente de nous. Et puis, alors, quand on dit à celui-là, nécessairement, il agit sous la mouvance du démon. Difficile de dire. Il agit différemment de nous, avec une politique différente, mais c'est très difficile de dire cette politique est une politique démoniaque. C'est nécessairement le démon qui agit. Vous voyez ? Je crois que c'est très très difficile. De temps en temps, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut quand même avoir le discernement des esprits. Et donc il s'agit de dire, pour moi c'est démoniaque. Alors là je crois que je peux le dire, vous voyez ? Pour moi c'est démoniaque. Je ne pourrais pas aller dans ce sens-là sans vendre mon âme au démon. Ça je crois qu'on peut le dire, vous voyez ? Mais l'autre, je ne peux pas savoir. Parce qu'il y a le secret des cœurs. Et Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Et donc je ne peux pas le savoir. Et je crois que c'est très important cela, de maintenir ce jugement, parce que de fait, c'est lié à l'exécution. Oui. Alors, nous allons continuer, chapitre 10. Et je vis un autre ange vigoureux qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, avec l'arc-en-ciel sur sa tête. Donc l'arc-en-ciel, ne l'oublions pas, qui est autour du trône du Père et qui est le signe de la paix. Donc enveloppé d'une nuée, c'est enveloppé de l'esprit. Alors, c'est très curieux, cet ange vigoureux, hein, c'est qui ? Qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, avec l'arc-en-ciel sur sa tête. Et sa face était comme le soleil. Vous voyez, cet ange vigoureux a tout l'air du Christ. Alors, c'est l'envoyé, hein, faut pas oublier, quand on traduit « ange », il faudrait traduire « angelos », en grec « envoyé ». Alors, je vis un autre envoyé vigoureux. Parce que quand vous dites « ange », nécessairement, vous discernez substantiellement quelqu'un. Vous discernez un ange, une créature spirituelle. Tandis que quand vous dites « envoyé », vous ne regardez pas la substance de l'être, vous regardez simplement sa mission. Donc c'est différent. L'envoyé peut être le Christ est l'envoyé du Père par excellence, et Marie est l'envoyée de Jésus. Et donc ça peut être le Christ. Et sa face était comme le soleil, ses jambes comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert, de sorte que je crois que c'est le Christ lui-même. C'est une intervention du Christ, voyez, très curieuse. Au milieu de l'église, une intervention du Christ directement au moment de la sixième trompette. Or, la sixième trompette, vous vous souvenez, elle est particulièrement difficile à comprendre et elle est sûrement particulièrement tumultueuse. Autrement dit, la sixième trompette, c'est vraiment le moment où on voit la lutte à son paroxysme. C'est la lutte à son paroxysme. Alors, qu'il y ait eu dans l'église plusieurs fois sixième trompette, c'est possible. Il y aura un moment où il y aura la dernière sixième trompette. Et on sera vraiment à son paroxysme. Vous voyez ? On est peut-être, j'en sais rien, hein, on ne peut pas le savoir, mais on est sûrement à la sixième trompette maintenant. En ce sens qu'il pourrait y en avoir une autre après, mais on est sûrement. Quand on regarde ce qui se passe, quand on voit ce qui se passe, on peut dire qu'on est à la sixième trompette. Et alors, dans la sixième trompette, étant donné que la lutte est particulièrement forte et véhémente, il y a un secours particulier. Et ce secours particulier, c'est justement Jésus qui est envoyé et qui nous est donné. Donc c'est l'intervention directe de Jésus, c'est l'intervention immédiate du Christ, je crois que nous pouvons le dire, qui donne le petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Vous voyez, le lion de Judas. Le lion est toujours le symbole du Christ. Le soleil est le symbole du Christ. Et ses jambes, comme des colonnes de feu, c'est aussi le symbolisme du Christ. Et alors, c'est très curieux, parce que vous voyez, dans sa main, il a un petit livre ouvert. N'oubliez pas que nous avions vu précédemment, au chapitre 4, que c'était celui qui était sur le trône qui avait un petit livre scellé. Il y a nettement un parallélisme entre les deux. Donc, il y a le petit livre scellé du Père qui tient tout le mystère de la prédestination. Et puis, le petit livre ouvert de l'agneau, de Jésus. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, hein? C'est là où il faut essayer de comprendre, que celui qui est intelligent comprenne, comme il dit dans l'Apocalypse. Bon, parce qu'on doit essayer de s'approcher petit à petit. Il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Et lorsqu'il eut crié, les sept tonnerres firent parler leur voix. Alors, les tonnerres, c'est l'Esprit Saint. Faut pas l'oublier. C'est l'action de l'Esprit Saint, mais une action qui n'est pas le suavitaire. Le suavitaire de l'Esprit Saint, c'est la voix. Tandis que le fortitaire de l'Esprit Saint, c'est les tonnerres. Donc l'Esprit Saint agit de temps en temps avec beaucoup de violence. La violence peut-être de Dieu. Hein. Faut pas oublier. Selon l'Apocalypse, faut pas dire du tout « Ah, Dieu, c'est nécessairement le point de vue de la douceur. » Non. Il y a une violence qui vient de Dieu. Et il y a une douceur qui vient de Dieu. Et donc, il y a les deux, si vous voulez. Ce n'est pas toujours commode à préciser. Mais et lorsqu'il eut crié, les sept tonnerres firent parler leur voix. Alors, il y a le lien de la violence et de la douceur. Et lorsque les sept tonnerres eurent parlé, j'étais sur le point d'écrire. Et j'entendis une voix venant du ciel qui disait « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit pour les éternités d'éternité, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, et la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. » Oui, c'est bien l'action du Christ qui arrive au terme. Tout est entre les mains de Jésus. Ça, c'est bien évident, et c'est pour nous montrer cela. Tout est en les mains de Jésus. Au moment où la lutte est la plus grande, nous voyons le concours du Christ et des sept tonnerres, donc l'Esprit Saint dans sa force. Oui, pour les charismatiques. Mais sept tonnerres, c'est ça. Alors, est-ce que les sept tonnerres sont liés à l'action charismatique de l'Esprit Saint? C'est possible. C'est pas du tout interdit de dire ça. Parce que l'action charismatique est une action qui a une certaine violence. Vous voyez, c'est une action qui n'est pas selon le point de vue naturel. Et alors, il y a quand même quelque chose qui est lié au tonnerre. Alors, c'est assez curieux que nous voyons l'action du Christ qui intervient directement avec le petit livre. Et puis, les sept tonnerres. Et Jésus explique lui-même qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour où se ferait entendre le septième ange, lorsqu'il viendrait à sonner de la trompette, alors s'achèverait le mystère de Dieu, comme il en a fait l'annonce à ses esclaves, les prophètes. Je crois que ceci, c'est très important à souligner. Parce que ça nous fait comprendre que l'interprétation des sceaux doit être verticale, ce que je vous disais tout à l'heure. Et l'interprétation des trompettes doit être horizontale, c'est-à-dire selon le temps. Alors, je peux interpréter les sept trompettes pour montrer les sept âges de l'Église, mais je ne peux pas le faire avec les sceaux. Parce qu'on a fait des confusions là-dedans. Et on n'a pas regardé assez le texte. Je crois que si on regarde attentivement le texte, on voit très bien qu'il y a les deux. C'est très très normal qu'il y ait les deux. Parce que l'exécution, elle est toujours dans le temps. Alors que les décisions de Dieu sont dans l'éternité. Alors les décisions sont verticales. Prendre les sept sceaux pour découvrir les sept âges de l'Église, ça ne va absolument pas. C'est la coupe de l'action de Dieu verticale sur nous. Tandis qu'au contraire, les trompettes, c'est de l'ordre de l'exécution. Et alors là, nous pouvons dire, nous sommes à la sixième trompette. Vous voyez ? Évidemment, nous ne pouvons jamais le dire d'une façon absolue. Mais on peut dire, tout semble nous indiquer que nous sommes à la sixième trompette. Parce que c'est, quand on regarde attentivement, il semble bien que c'est cela. Que nous sommes au milieu d'un temps où tout est particulier. On relira la sixième trompette après, hein, parce que c'est quand même important d'y revenir. pour essayer de déceler ce que... C'est une grille, hein, une grille divine pour lire les événements dans lesquels nous sommes. Les événements de l'Église, hein, avant tout, en premier lieu. Parce que c'est l'Église qui est gouvernée par Dieu, directement. Et l'humanité est gouvernée médiatement. Je ne veux pas dire que c'est l'Église qui doit donner les commandements aux chefs d'État. Mais l'Apocalypse n'est pas écrite en premier lieu pour nous donner l'histoire du monde. L'Apocalypse, c'est l'Église militante. Faisons bien attention, hein. C'est l'Église militante. C'est l'Église militante qui est portée par l'agneau. Dieu laisse toujours, quand il s'agit des causes secondes, leur liberté. Alors, il est bien évident qu'un chef d'État, c'est une cause seconde. Et donc, l'Apocalypse peut regarder l'action démoniaque sur certains chefs d'État. Ça, c'est évident. Parce que l'Apocalypse nous montre, et nous le verrons, que, de fait, le démon se sert de certains hommes contre l'Église. Et c'est toujours contre l'Église. C'est l'action démoniaque qui se fera par l'Église. Alors ça, l'Apocalypse veut nous le montrer. Mais l'Apocalypse ne nous donne pas, si vous voulez, l'histoire de l'humanité ou l'histoire des hommes. C'est à travers l'Église. C'est très important de préciser ces points de vue-là. Alors vous voyez bien qu'ici, nous sommes en présence de ce sixième sceau qui montre qu'il n'y aura plus rien d'autre que le septième sceau qui annoncera que le mystère de Dieu, comme il en a fait l'annonce à ses esclaves, les prophètes. Je reprends. Mais qu'au jour où se ferait entendre le septième ange, lorsqu'il viendrait à sonner de la trompette, alors s'achèverait le mystère de Dieu, comme il en a fait l'annonce à ses esclaves, les prophètes. Et la voix que j'avais entendu du ciel parler avec moi de nouveau et disait « Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange, dans la main de l'envoyé qui se tient debout sur la mer et la terre. » Et je m'en allais vers l'envoyé, lui disant de me donner le petit livre. Il me dit « Prends et dévore-le. Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Dans ma bouche, comme miel, il était doux. Mais lorsque je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Et on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur les peuples, et des nations, et des langues, et des rois en grand nombre. » Alors, voyez, ce petit livre, hein, qu'est-ce que c'est? Ce petit livre ouvert, on peut donner diverses hypothèses. Hein. Je me demande, alors là, c'est personnel, l'interprétation, c'est très difficile à donner cette interprétation, mais je crois qu'on peut donner cette interprétation. Ce petit livre, est-ce qu'il n'est pas de fait l'évangile de Jean? Vous voyez? Parce que je ne crois pas que c'est toute la révélation. On ne dirait pas le petit livre. Le fameux petit livre de Mao, hein? L'opposition vis-à-vis de cela, hein? Le petit livre, je me demande si c'est pas cela. Si c'est pas Jean qui, dans une vision prophétique, a vu dans l'Apocalypse ce petit livre que le Christ lui donnait, que l'envoyé du Père lui donnait, et qui lui demandait de le manger. Manger ce petit livre, le dévorer. On se nourrit de la parole de Dieu. Et si, de fait, il semble bien que l'Apocalypse a été écrite avant l'évangile de Jean. Et que ce petit livre a donné à Jean la compréhension de devoir écrire l'évangile. Si c'est vrai, c'est très beau. Hein? C'est très beau parce que ça montre comment l'évangile de Jean, c'est l'évangile à la fois le plus doux et le plus amer. Et que ça montre pour nous, parce que L'Apocalypse est pour nous. L'Apocalypse est pour Jean, mais elle est pour nous. Enfin, c'est très beau de voir comment elle est pour Jean, puisque Jean l'a vécu. Et Jean l'a vécu, et ça a donné un résultat dans le cœur de Jean. Mais l'Apocalypse est pour nous. Pour nous, est-ce que ce n'est pas cela? Que, de fait, au milieu de ces tourments que nous vivons, n'y a-t-il pas un retour à la source directe, le petit livre? Oui. Comme si, de fait, toute la théologie est usée et qu'il faut reprendre un regard nouveau, direct, sur l'écriture. Et sur l'écriture dans ce qu'elle a d'ultime et dernier. Autrement dit, si vous voulez, qu'il y a une exigence pour nous aujourd'hui, en face de ces luttes si fortes, de redécouvrir la source la plus profonde de toute la révélation. La source la plus profonde de toute la révélation, c'est l'évangile de Saint Jean. Et c'est bien le petit livre. Vous voyez ? Alors c'est pour ça que j'ai dit le petit livre a pour Jean une signification très particulière, et le petit livre a pour nous une signification très particulière. Le petit livre a une signification très particulière pour Jean, parce que, de fait, par là, il va être lié d'une manière très particulière à cette exigence que le Christ lui donne. Jean écrira son évangile parce que le Christ lui fera comprendre qu'il faut qu'il écrive pour les derniers temps. Et alors, vous voyez, là c'est évident, on entre dans quelque chose qui est difficile toujours à préciser, mais qui me semble important à préciser. Quand on voit la pagaille théologique d'aujourd'hui, il faut appeler les choses par leur nom, on est dans la diaspora théologique, n'est-ce pas ? Ça va dans tous les sens. Vous ne distinguez plus la théologie qui est protestante de la théologie catholique. Vous ne distinguez plus ce qui est vraiment dans la tradition de l'Église et ce qui n'est plus dans la tradition de l'Église, puisqu'il n'y a plus de censure. Donc vous pouvez éditer n'importe quoi, dans le sens profond. De temps en temps, les évêques diront « Ah, ça va un peu trop loin ». Mais c'est très rare. De temps en temps, ils retireront un livre parce que, de fait, il y aura un certain nombre de prêtres ou un certain nombre de laïcs qui diront non. Alors, ils le retireront. Vous voyez, c'était le livre, vous savez, de l'abbé qui s'appelait Charlot, c'est pour ça qu'on retient facilement son nom, qui écrivait sur l'Eucharistie. Et qui a écrit sur l'Eucharistie, l'évêque l'avait laissé passer. Et c'est parce que, de fait, il y a eu une pétition d'un certain nombre de prêtres menaçant d'aller jusqu'à Rome s'il le fallait, que le livre a été retiré. Mais le prêtre qui a écrit le livre est resté. Donc c'est resté comme ça, quoi. C'est incapable d'en écrire un autre. Au fond, on est dans une pagaille théologique, il faut appeler les choses par leur nom. Je crois que c'est vrai. Et alors, tout ça, ça fait partie du sixième sceau, hein. Ça fait partie de la sixième trompette, je veux dire. C'est directement parmi la sixième trompette. Ça fait partie du mystère de la sixième trompette. Parce que c'est justement la lutte dans la grande obscurité. Et à ce moment-là, il y a un ordre donné par le Christ de revenir directement à la source. L'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean qui doit être mangé. J'aime beaucoup cela. Parce que ça veut dire que la parole de Dieu doit être reçue directement comme une parole divine, pas à travers certaines méthodes qui enlèvent à la parole de Dieu toute sa signification. Il faut recevoir la parole de Dieu dans toute sa force, j'allais dire dans toute sa crudité de parole divine, n'est-ce pas ? Dans toute sa force de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous est montré que quand on avale ce petit livre, il n'y a rien qui nous soit adapté. Beaucoup de théologiens aujourd'hui font de la théologie pour adapter la parole de Dieu selon la culture de l'homme, selon ce que l'homme est capable de comprendre. Et c'est le théologien qui, par le fait même, en faisant ça, ne met plus la parole de Dieu dans toute sa vigueur. Quand il y a la corruption des théologiens, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est le retour direct à la source. Pour avoir une parole divine qui est toute sa force. Et alors c'est, je crois, ce qui nous est montré, quand on retourne directement à la parole de Dieu, prends, dévore-le, il remplira ton ventre d'amertume, les entrailles. Alors le père Hostie a traduit ventre, parce qu'il aime bien, il est un paysan, il ne faut pas oublier le père Hostie. Et dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Il y a les deux. Ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a toujours une action double. Il est à la fois ce qui est de plus doux et en même temps ce qui est de plus violent. Le fortitaire et le suavitaire. Et alors la parole de Dieu, quand elle est prise directement comme une parole divine, elle agit de cette manière-là. Elle a une douceur parce que rien n'est plus tendre que la parole de Dieu. C'est la parole de l'ami, c'est la parole de l'époux, c'est la parole du Père. Et donc rien n'est plus tendre que cette parole. Mais en même temps, c'est une parole qui est comme un glaive, et donc qui blesse. Alors, nécessairement, parce qu'elle est blesse, elle engendre l'amertume. Et on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur des peuples, des nations, et des langues, et des rois en grand nombre. C'est comme un renouveau, voyez, de toute l'action apostolique. Comme une reprise de toute l'action apostolique à partir et à l'intérieur même de cette sixième trompette. Vous voyez, ça m'impressionne quand je vois que le Saint-Père ne cesse de nous rappeler le renouveau de l'Église. Hein? Et quand le Saint-Père nous rappelle le renouveau de l'Église, je crois que c'est inscrit là, vous voyez. Encore une fois, c'est toujours très difficile de dire exactement ce qui en est, mais c'est quand même net que la grâce que le Christ nous donne si nous vivions le sixième sceau et si nous sommes dans le sixième sceau, c'est ce renouveau direct qui doit se faire pour tous les chrétiens. Comme si, de fait, les chrétiens doivent eux-mêmes avoir cette audace de comprendre que la parole de Dieu leur est donnée directement. Voyez, il y a eu, il faut bien saisir ces choses-là, il y a eu de la part des catholiques une peur de lire l'Écriture directement à partir de Luther. C'est très vrai. Luther demandait le libre examen. Luther demandait de lire la parole de Dieu et dans la parole de Dieu de découvrir ce que nous-mêmes nous ressentions. Alors l'attitude de l'Église catholique à ce moment-là a été d'insister beaucoup sur la théologie, a été d'insister beaucoup sur l'enseignement théologique en disant attention, ne lisez pas l'Écriture comme ça, comme on lit n'importe quoi, il faut faire attention. Ça en est venu à tel point que pour certains, on n'avait pas le droit de lire l'Ancien Testament. Lire l'Ancien Testament, c'était presque, je ne dis pas pécamineux, mais presque. On n'avait pas le droit de lire l'Ancien Testament. C'était un livre qui restait, alors que les protestants, eux, au contraire, lisaient l'Ancien Testament comme un livre qui leur était donné et qu'ils devaient connaître pleinement et parfaitement. Je crois qu'on arrive maintenant à une période qui n'est plus la période après le Concile de Trente. Pie XII avait dit de son vivant, je suis le dernier pape après le Concile de Trente. Autrement dit, Pie XII annonçait quelque chose de tout à fait nouveau dans l'Église, qui était comme quelque chose... Ça ne veut pas dire que le Concile de Trente n'existe plus, vous comprenez bien. Il existe toujours. Hein? Mais il y a une nouvelle étape dans l'Église. Et cette nouvelle étape, elle est ouverte par Vatican II. Elle ouvre une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape fait que beaucoup auraient dit, étant donné les luttes qu'on a, on devrait condamner. Je me souviens, pendant le Concile, d'avoir été à Rome... Je n'étais pas expert parce que j'étais philosophe. Alors, mon général dominicain m'a dit non, parce que les philosophes ne peuvent pas être des experts, il faut des théologiens. Bon, très bien. J'étais très heureux du reste. J'aimais mieux ça. Mais j'allais de temps en temps à Rome. Ça m'intéressait. Et alors, j'ai discuté une fois pendant toute une nuit avec un évêque français qui était mais absolument désemparé. C'était pas l'évêque que nous pensons. Hein. C'était un autre évêque que je connaissais, qui était beaucoup plus intellectuel et beaucoup plus intelligent dans son intelligence et dans sa recherche, qui vraiment était un des évêques français les plus intelligents. Et alors, il recherchait beaucoup en disant « je comprends pas. Ce concile ne veut condamner personne. » Alors qu'il y a tant de choses à condamner. Et le concile ne veut pas condamner. Alors, nous avons beaucoup réfléchi ensemble et discuté ensemble. Je lui ai dit, la seule lumière que j'ai, c'est l'évangile de Saint Jean. Et je dis, croyez bien, je suis le concile avec beaucoup d'intérêt, et ce que vous me dites là, j'y ai pensé. Quand on a dit, ce concile ne condamnera personne. Pourquoi ? Eh bien, quand on regarde dans l'évangile de Saint Jean, et c'est pour ça que j'ai dit, c'est le petit livre. Le petit livre donne des clés. Et l'évangile de Saint Jean donne des clés que nous n'avons nulle part ailleurs. Ça, c'est bien net. Et alors, je lui ai dit, la seule lumière que j'ai, c'est l'évangile de Jean. Elle m'a dit, pourquoi ? Regardez la dernière semaine dans la vie apostolique de Jésus. Quand vous regardez attentivement l'évangile de Saint Jean, vous voyez que l'évangile de Saint Jean va montrer la première éclosion de la vie apostolique de Jésus, du chapitre 2 au chapitre 6. Puis on nous montre les grandes luttes de Jésus, du chapitre 6 au chapitre 12, et la dernière semaine. Jésus, dans toute sa vie apostolique, n'hésite pas de condamner. Et dans le grand chapitre 8 de Saint Jean, il condamne avec force. Votre père, c'est le diable. Il a dit ça à son peuple. Et ça, c'est d'une force étonnante que Jésus dit, votre père, c'est le diable. Je crois qu'il ne peut pas aller plus loin dans la condamnation. Hein. Jésus pouvait le faire. Mais dans la dernière semaine, Jésus ne condamne plus. Et le jour où Jésus ne condamne plus, il accepte d'être mis sur la croix. Parce que je crois que c'est le propre, justement, de la dernière semaine. Alors, si l'Église, selon l'Apocalypse, est liée à la mission du Christ, ce que le Saint-Père nous a rappelé avec force dans son encyclique Redemptor Hominis, la première, en montrant que la mission de l'Église est la même que celle du Christ. Et en ce sens-là, il s'appuie très très nettement sur toute la tradition, mais spécialement sur l'Apocalypse. Si donc l'Église a la même mission que le Christ, dans le déroulement de l'Église, il faudra donc qu'il y ait la dernière semaine. Alors, je me posais la question, et je lui posais la question, est-ce que Vatican II ne nous fait pas entrer dans la dernière semaine, puisque l'Église ne condamne plus ? L'Église a le droit, si elle est conduite par le Saint-Esprit et qu'elle veut être docile au Saint-Esprit, de comprendre que c'est vrai, elle doit prendre une attitude nouvelle. Mais alors à ce moment-là, elle se met sur la croix. Vous voyez, ce qui confirme et ce qui confirmerait cette interprétation que je vous donne ici et qui me semble très importante, c'est que nous sommes bien dans la dernière semaine. La dernière semaine, ça peut durer, hein, vous comprenez bien. C'est la dernière semaine symboliquement. Ça peut durer 200 ans, ça peut durer 300 ans, ça peut durer même plus, je n'en sais rien. Comme ça peut être très rapide. Les deux hypothèses ne sont pas écartées. La dernière semaine, ça peut être très rapide, parce que les dernières semaines vont toujours très vite. C'est comme ça. La dernière semaine de notre vie ira très vite. Ce sera toujours comme ça. Les dernières semaines vont toujours très vite. Plus on s'approche du terme, c'est ce que disait le saint Thomas, plus on s'approche du terme, plus on va vite. Alors il donnait l'exemple que le Moyen-Âge aimait donner de la pierre qui tombe, l'accélération de la vitesse. N'est-ce pas ? L'accélération de la vitesse. Nous sommes dans un âge d'accélération de la vitesse. Ça, c'est visible. Il faut la neige pour que l'accélération de la vitesse diminue. N'est-ce pas ? Autrement, on est dans un âge d'accélération de la vitesse. Alors, cette accélération de la vitesse, elle existe même à l'intérieur de l'Église. Et c'est le signe qu'on s'approche du terme. Plus on s'approche du terme, plus on va vite. Oui. Et alors on s'approche du terme. La dernière semaine, c'est cette semaine où l'Église est dans sa dernière période. La dernière période de l'Église. marquée par le Concile Vatican II. C'est pour ça que Vatican II est si difficile à comprendre. Parce qu'on peut interpréter Vatican II de deux multiples façons. Et l'interprétation de Vatican II, je crois, si on la regarde attentivement, c'est l'Église qui se recueille un moment pour entrer dans les grandes luttes. Vous allez voir ça, on va le voir ici. L'Église ne passe pas par la mort en ce sens que l'Église ne disparaîtra jamais. Il ne faut pas dire que l'Église disparaîtra, qu'il n'y aura plus l'Église. Vous voyez, c'est pas ça du tout. Il faut pas imiter univoquement. Vous voyez, l'Église est l'épouse, elle a les promesses de l'époux, qu'elle durera jusqu'au bout. Mais elle a les promesses de l'époux de vivre ce que l'époux a vécu. Oui, c'est pour ça que je disais en regardant le début de l'Apocalypse, je crois que l'Apocalypse a été pour Jean, si j'essaie de comprendre, a été pour Jean la prophétie que le vieillard Siméon a dit à Marie, elle a été pour toute l'Église. Oui. Jean a compris que la prophétie du vieillard Siméon, un glaive te transpercera l'âme, donc qui est le grand mystère de la compassion, ce grand mystère de Marie, c'est pour l'Église. Ce n'est pas uniquement Marie, c'est toute l'Église. Et c'est pour ça que Marie est la mère de l'Église. Et donc ce que Marie a vécu dans le mystère de la compassion, l'Église doit le vivre dans son mystère de compassion. Et elle doit avoir un glaive qui transperce son âme. Vous voyez ? Et alors ce glaive qui transperce son âme, est-ce que ce n'est pas justement ce que nous voyons à partir de la sixième trompette ? Et ce qui nous est montré que la sixième trompette est quelque chose de particulièrement périlleux, c'est qu'il y a un secours immédiat du Christ qui intervient directement. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que nous verrons tous le Christ intervenir dans notre vie, ce n'est pas ça, mais ça veut dire que le Christ intervient pour donner un sens nouveau, plus pénétrant, un sens qui va plus loin à l'égard de la parole de Dieu. Et cette espèce de retour à la source. Et je crois que c'est bien ce qui nous est demandé actuellement, un retour à la source, pour que tous, nous comprenions que nous avons besoin de nous fortifier en nous nourrissant du petit livre. Et donc, des écrits johanniques. Parce que le petit livre, c'est les écrits johanniques. L'Apocalypse, la première épître, Saint Jean. L'évangile de Saint Jean. Alors, je continue, puisque c'est ça. C'est, on va progressivement, on va essayer de voir cette chose-là.
C'est dur pour les autres évangélistes.
Non, non. C'est pas dur. L'évangile de Saint Jean, entre l'Apocalypse et l'évangile de Jean, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas du tout que ce petit livre que Jésus a donné à Jean, c'est la compréhension de l'évangile qu'il devait écrire. Oui. Si on dit aujourd'hui, et ça je crois que c'est une des données des exégètes qui me semble très intéressante, les meilleurs exégètes de Saint Jean, là je parle du père Braun, dominicain qui est mort mais qui était à Fribourg et qui était un grand ami, et puis le père Feuillet, qui est vivant encore et qui a un sens extraordinaire de l'exégèse, eh bien, le père Braun et le père Feuillet, là-dessus, étaient d'accord pour dire que l'évangile de Jean a été écrit après l'Apocalypse. Alors ça, c'est très très fort, parce que ça donne à l'intelligence de ce petit livre, vous voyez, une signification très très forte. Le père Feuillet ne dit pas ça, il ne peut pas le dire en tant qu'exégète. Hein. Le père Feuillet se place sous d'un point de vue exégétique. C'est ce qui m'intéresse, parce que le père Feuillet dit tout le temps, nous sommes des serviteurs, c'est vous les théologiens à faire une grande théologie mystique. Nous ne pouvons pas, nous sommes des serviteurs. Et c'est vrai d'une certaine manière, un exégète ne peut pas faire une théologie mystique en tant qu'exégète. Il doit accepter son... Mais le théologien doit donner un sens mystique, c'est-à-dire le sens ultime de l'écriture. Et le sens ultime de l'écriture, c'est bien manger le petit livre. Et c'est là la théologie mystique, hein. C'est de manger le petit livre, en comprenant le point de vue de la douceur et en comprenant le point de vue de la violence. Que la parole de Dieu implique cette violence. Et il me fut donné un roseau. Alors voyez, vous allez voir, hein, si c'est ça que nous vivons, c'est très très fort, hein, comme intelligence du mystère que nous devons vivre. Et il me fut donné un roseau, semblable à un bâton, en disant « Lève-toi, mesure le sanctuaire de Dieu, et l'autel et ceux qui s'y prosternent et le parvis extérieur du sanctuaire, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations et elles le fouleront, et elles fouleront la ville sainte, pendant 42 mois. Vous voyez cette chose très étonnante, hein? Il est demandé à Jean de mesurer avec un roseau. Tout ce qui vient de Dieu implique mesure, poids et nombre. Donc, le roseau, qui est la mesure, hein, il est donné un roseau semblable à un bâton, en disant, lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, c'est l'Église. Donc, il y a comme une nouvelle mesure de l'Église. Une nouvelle mesure de l'Église en ce sens que en face de cette lutte particulièrement forte, il y a le même phénomène que ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, le petit reste. Le phénomène du petit reste, je crois, nous est montré ici. Parce que ça, le phénomène du petit reste, c'est très très classique, hein. Les exégètes de l'Ancien Testament montrent le petit reste de l'Ancien Testament. Or, saint Paul nous dit que l'histoire de l'Ancien Testament doit nous aider à comprendre le mystère de l'Église. Encore une fois, toujours d'une manière symbolique, hein? Pas d'une manière grossière, mais d'une manière symbolique. Mais ça veut dire une intensité plus grande en face de ceux qui sont plus directement mus par l'Esprit Saint. Lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu et l'autel et ceux qui s'y prosternent, donc tous les adorateurs. C'est très important de voir combien l'Apocalypse insiste sur l'adoration. Et moi, je suis très frappé de voir qu'on insiste si peu sur l'adoration. Ça, c'est un fait. Combien de fois par an entendez-vous des sermons sur l'adoration? L'exigence de l'adoration. C'est capital, parce que c'est par là qu'on peut être docile au Saint-Esprit. L'Esprit Saint ne peut mouvoir que ceux qui adorent. Au très grand sens. L'adoration, c'est ce qui nous permet de revenir à la source et de nous alléger et d'avoir la vraie pauvreté évangélique, hein, le véritable abandon. Alors, voyez, c'est mis l'autel et ceux qui s'y prosternent, donc ceux qui adorent. Et le parvis extérieur. Mais c'est là on voit que l'œcuménisme tel qu'il est mené aujourd'hui semble quelque chose, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, semble quelque chose qui est à côté. Le petit reste, c'est les catholiques, dans les catholiques, dans les protestants, dans les orthodoxes, ceux qui se prosternent et adorent. C'est ça le véritable œcuménisme. Il est qualitatif, il n'est pas du tout du côté de l'extension. C'est tous ceux qui vraiment, dans leur foi, veulent aller jusqu'au bout du combat. Alors à ce moment-là, ils se regroupent. Ils ne se regroupent pas du tout, vous voyez, comme une discussion qu'on fait. Ils se regroupent dans le combat. C'est la seule propre. C'est comme ça qu'on voit les vrais soldats. Ils se regroupent dans le combat. Est-ce qu'ils ont le courage d'aller jusqu'au bout? Alors à ce moment-là, ils se regroupent dans le combat. Ils se regroupent parce qu'ils sont finalisés. Alors les catholiques, les protestants et les orthodoxes, dans la mesure même où ils acceptent d'aller jusqu'au bout. Alors, ceux-là font partie de ceux qui se prosternent, qui sont proches de l'autel. Et le parvis extérieur du sanctuaire, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations. Aux nations, c'est les païens. Aux nations, c'est ceux qui ne croient pas. Parce qu'il leur a été donné aux nations. Et elles fouleront la ville sainte, pendant 42 mois. Et ça fait partie, hein, du sixième sceau. fouler la ville sainte. C'est l'Église, la ville sainte. Hein. Disons pas Rome, ça c'est matérialisé. Hein. C'est l'Église. Donc les nations pénètrent dans l'Église et foulent le sol des parvis. Et veulent faire une nouvelle théologie qui soit adaptée à toutes les idéologies modernes. C'est exactement ça. C'est la pénétration de toutes les idéologies athées dans l'Église. C'est la pénétration de toutes les erreurs dans l'Église. C'est ça les parvis. Et les parvis extérieurs du sanctuaire laissent-le en dehors et ne le mesurent pas. Parce qu'il a été donné aux nations. Et elles fouleront la ville sainte, pendant 42 mois. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Alors toujours le chiffre, hein, que ce soit donné en mois ou en jours. Alors là, il faudrait préciser. Hein. C'est curieux. Parce que c'est évident que c'est pas la même chose. C'est la même mesure, c'est le même temps, mais c'est donné en mois ou en jours. Alors pourquoi ? Je ne sais pas ce qui passe le plus vite, les mois ou les jours. Il faudrait voir ces choses qu'on compte par jour et les choses qu'on compte par mois. Hein, il y a une différence, il y a certaines choses qu'on compte par mois. Il y a des échéances qui sont par le mois et il y a des échéances qui sont pour le jour. Et alors c'est pour ça que c'est mis selon les deux. C'est très curieux. Alors on voit apparaître les deux témoins. Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux lampadaires dressés devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un voulait leur nuire, c'est ainsi qu'il faut qu'ils soient tués. Ceux-là ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie durant les jours de leur prophétie. Et ils ont pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pouvoir de frapper la terre de toutes plaies, autant de fois qu'ils le voudront. Et lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, alors ça c'est très curieux, hein. Donc ce témoignage, c'est deux témoins qui sont envoyés directement par le Christ, qui sont donnés directement par le Christ. Et qui sont pour que les chrétiens fassent le discernement entre l'autel de ceux qui se prosternent et ceux qui sont dans les parvis. C'est un discernement que les deux témoins doivent faire. Oui, et c'est pour ça qu'ils s'en vont prophétiser. Prophétiser justement cette lutte extrême, cette lutte qui va à son paroxysme. Et Dieu leur donne un pouvoir extraordinaire. Alors évidemment, c'est symbolique tout ça. Faut dire que si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. C'est pas ça. C'est le feu de la parole. C'est une parole de feu. Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche. Si quelqu'un voulait leur nuire, c'est ainsi qu'il faut qu'ils soient tués. Autrement dit, c'est une bataille extrême, ultime, dernière. Et lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Alors voyez, on n'a pas encore parlé de la bête. Ça vient après, ça c'est la logique de l'Apocalypse, c'est merveilleux. Alors si vous voulez mettre de la logique dans l'Apocalypse, vous n'y comprenez rien du tout. N'est-ce pas ? C'est la logique de l'Apocalypse, c'est que, voyez, qu'on parle de la bête, on n'a pas encore parlé. On en parlera après. Mais ça, ça montre bien, hein, qu'il ne s'agit pas de comprendre successivement. Il s'agit de comprendre l'Apocalypse comme des visions successives. Hein. Alors, verticale, horizontale, et puis on verra ensuite, quand la bête apparaîtra, quel sera le nouveau regard. Jusque maintenant, on a la verticale et l'horizontale. Ça, c'est très net. Il n'y a pas que ça. Ces deux dimensions-là sont importantes à voir. Et lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Les vaincra et les tuera. Donc les deux témoins seront vaincus. Vous voyez, ce n'est pas l'Église. Ce sont les témoins dans l'Église. C'est ça qui est très très curieux. L'Église continue, ça c'est sûr, jusqu'au bout. Mais les témoins et leurs cadavres et sur la place de la grande ville qui est appelée allégoriquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. C'est très curieux. Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Et des hommes d'entre les peuples et tribus et langues et nations regardent leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et leurs cadavres, ils ne les laissent pas mettre dans une tombe. Oui. C'est la mort de Jésus à travers ses témoins. Mais c'est une mort toute différente. Et il n'y a pas le mystère du sépulcre, vous voyez, est tout à fait différent. Le sépulcre est ouvert, puisqu'ils ne sont pas dans une tombe. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à cause d'eux et exultent. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, donc des télégrammes. Ils enverront des présents les uns aux autres, car ces deux prophètes ont torturé ceux qui habitent sur la terre. Alors toujours l'expression, il faut bien comprendre. Ceux qui habitent sur la terre, nous dirions aujourd'hui, toutes les idéologies athées et matérialistes. Ce sont ceux qui veulent le bonheur uniquement sur la terre et qui ne pensent pas que l'homme est fait pour autre chose. Alors c'est les habitants de la terre, c'est très beau, hein, pour exprimer d'avance prophétiquement les idéologies matérialistes, les idéologies athées. Ce sont les habitants de la terre. C'est ça, les habitants de la terre. Et tous ceux qui suivent ça et qui ne pensent qu'il n'y a rien d'autre. Et alors voyez, c'est très curieux. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à cause d'eux. Ils sont persuadés d'avoir vaincu les deux témoins, de les avoir supprimés. Donc c'est fini. Et à cause, donc, ceux qui habitent la terre se réjouissent à cause d'eux et exultent. Ils s'enverront des présents les uns aux autres. Car ces deux prophètes ont torturé ceux qui habitent sur la terre. Et après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur leurs pieds, la résurrection des témoins. Et une grande peur tomba sur ceux qui les contemplaient. Ils entendirent, venant du ciel, une voix forte qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il eut une grande secousse, et le 10e de la ville tomba, et dans la secousse furent tués 7 milliers de personnes, et les autres furent saisis de peur. Ils rendirent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur s'en alla. Voici que le troisième vient bientôt. Il faut s'arrêter maintenant. Hein, c'est beau, ça. Hein, c'est extraordinaire comme puissance. Moi, je trouve ça extraordinaire comme puissance. Et alors, si on essaie de comprendre un peu, évidemment, on ne comprend pas tout. C'est bien évident. Il y a une signification extrêmement profonde. Mais le peu de sens qu'on comprend de cela, quand on essaie d'entrer un peu dedans, c'est extraordinairement puissant. Vous voyez que ces deux témoins, c'est les deux qui sont auprès du Christ au moment du Tabor. Moïse et Élie. Mais c'est les deux pour l'Église. Alors, ce n'est pas Moïse et Élie, mais c'est l'analogue de Moïse et Élie. Et ça, on peut le comprendre, c'est assez net, hein, parce que ces deux témoins, c'est allusion à Moïse et Élie. Moïse et Élie ont quand même un rôle tout à fait particulier, ce sont les deux témoins auprès de Jésus, au Tabor. Alors, on comprend très bien que l'Apocalypse donne pour l'Église deux témoins semblables à ceux des témoins de Jésus, qui annoncent la mort du Christ, hein, qui sont là pour annoncer. Or, ces deux témoins sont là pour que l'Église puisse aller jusqu'au bout, pour que l'Église soit fidèle jusqu'au bout. Alors on retrouve un rôle analogue de ces deux témoins par rapport à l'Église, par rapport au Christ. Alors les deux témoins, Élie et Moïse. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est le prophète du feu. Élie qui doit revenir à la fin des temps. Hein. Jésus le dit. Alors je ne crois pas que c'est Élie qui reviendra vraiment, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous dit « je suis Élie », difficile, hein, je suis le prophète qui revient à la fin des temps, je suis Élie, hein, je vous en donne certaines significations, c'est pas commode à reconnaître, mais c'est l'esprit d'Élie, c'est ça, je crois, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'esprit d'Élie, parce que Jean-Baptiste, quoi, non, c'est pas une réincarnation, c'est l'esprit d'Élie, c'est l'esprit d'Élie comme exactement comme Jean-Baptiste est revêtu de l'esprit d'Élie, Jean-Baptiste est Élie. Il annonce la venue du Christ et il y aura donc l'esprit d'Élie. Alors, c'est là où il faut essayer de comprendre ce que représentent ces deux témoins. Parce que ces deux témoins jouent un rôle très, très grand. Vous voyez, ces deux témoins ont un rôle prophétique et un rôle de présence. Je crois que c'est les deux. Si on regarde attentivement les deux, il faudra relire ça la fois prochaine. Alors je vous laisse le soin de découvrir ces deux témoins. C'est très très beau. C'est essayer de découvrir à travers Élie et Moïse, découvrir ce que doit être dans l'Église et dans l'Église actuelle, puisque nous lisons ça pour nous actuellement. C'est pas d'une façon... Que doit être dans l'Église les deux grands témoins? Que peut être dans l'Église ces deux témoins? On arrête.